Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est le coup de tonnerre du jour, la vaccination avec AstraZeneca en France. Pour l'instant, c'est terminé et c'est le chef de l'État qui l'a annoncé il y a 2 heures.
La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet.
En clair, on attend donc un nouvel avis de l'Agence européenne du médicament, l'EMA, qui tiendra ce jeudi une réunion extraordinaire et qui redit ce soir que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent toujours sur les risques. Bref, tout ça, c'est pas formidablement clair ni formidablement rassurant et ça pose beaucoup de questions auxquelles le professeur Philippe Juvin tentera de répondre à partir de 18h15. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
C'est évidemment le titre principal dans l'actualité de ce lundi 15 mars.
Oui, bien sûr, d'autant que ce soir, la plupart des pays européens font de même. L'Allemagne l'a annoncé juste avant nous, l'Italie juste après. On ira aussi voir ce qu'on dit ceux qui vaccinent, les pharmaciens par exemple, et puis les derniers vaccinés, inquiets ou pas, vous les entendrez. Et puis du côté des restrictions, l'idée d'un reconfinement continue de faire son chemin. Nous aurons sans doute de nouvelles décisions à prendre dans les jours qui viennent. Voilà ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron. Ce soir, le taux d'incidence en Île-de-France dépasse les 400 pour 100 000. C'était la barre fixée par le gouvernement.
Et on en parlera évidemment tout au long de cette soirée. La météo, Louis Baudin. Oh bah dis donc Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Vous nous avez habitués à mieux quand même. Là, c'est, oui. Une fois de plus, c'est pas terrible.
Ah non, c'est pas terrible.
Il va falloir bosser mon vieux.
Et puis neige, hein, on a eu jusqu'à 50 cm, 60 cm de neige fraîche. Le ballon d'Alsace est tout blanc par exemple. Et ça va continuer demain avec effectivement encore un ciel très nuageux. De la neige en montagne à basse altitude. Fort risque d'avalanche dans les Alpes. En plaine, ça sera sous forme de pluie. Il y aura moins d'éclaircies qu'aujourd'hui, sauf peut-être du côté de la Bretagne et surtout près de la Méditerranée où là avec l'aide du vent on aura du soleil mais ailleurs donc de l'humidité, beaucoup de nuages et des températures à peine de saison. On sera entre 7 et 10 degrés dans les régions du nord-est demain après-midi, 10 à 13 degrés dans les autres régions, c'est à peu près de saison et 15 à 17 près de la Méditerranée.
Il va falloir commencer à penser à organiser le printemps hein, monsieur Baudin.
Mais j'organise surtout le week-end prochain.
Bon enfin. Très bien, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et c'est donc l'information de cette fin de journée. La France suspend à son tour le vaccin AstraZeneca. L'annonce, vous l'avez entendu, a été faite tout à l'heure par Emmanuel Macron. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Le chef de l'État applique le principe de précaution.
Voilà, il préfère attendre un nouvel avis de l'Agence européenne du médicament et ensuite, il espère reprendre très vite la vaccination. Alors, suspendue en premier par le Danemark, l'Islande et l'Autriche jeudi dernier, qui s'interrogeaient sur des problèmes de thrombose, de caillots de sang chez certains vaccinés. Immédiatement, l'Agence européenne avait précisé qu'il n'y avait aucune raison de le suspendre car sur 5 millions de vaccinés, 40 cas de thrombose avaient été recensés sans lien prouvé et qu'il n'y avait pas de différence avec le nombre de cas dans la population générale non vaccinée. Alors aujourd'hui, l'Allemagne le décide à son tour. Les Allemands ont-ils des informations qu'on n'a pas? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Le ministre de la Santé allemand parle simplement de principe de précaution. Donc l'Agence européenne se réunira jeudi, mais d'ores et déjà, elle rappelle ce soir que les avantages l'emportent sur les risques.
Et de son côté, l'OMS indique ce soir qu'elle tiendra une réunion sur ce vaccin demain. Alors, on verra bien sûr tout ce qui sera dit. Ce qui est sûr, c'est que tout cela, Virginie, pourrait bien remettre en cause une partie de notre stratégie vaccinale.
En tout cas, c'est une part très importante. L'AstraZeneca doit, ou devait plutôt, livrer 17 millions de doses à la France avant fin juin, c'est-à-dire un quart des vaccins attendus. Bon, le laboratoire a annoncé qu'il ne pourrait pas honorer toutes ces livraisons, mais dans les 15 jours qui viennent, on devait vacciner en France 2 millions de personnes en pharmacie ou chez les généralistes, avec des doses encore en stock ou celles qui devaient être livrées. Bon, ce qui se passe aujourd'hui n'arrange pas l'image de ce vaccin qui pourtant peut sauver des vies. Pour 1 million de cas de Covid, vous avez 7000 décès. Autant vacciner tous ces gens.
Virginie Garin, chef du service santé de RTL. Alors tous ceux qui vaccinent, hein, qu'il s'agisse des centres, des médecins ou encore des pharmaciens, Amandine, sont censés être prévenus par un message de la DGS, autrement dit de la Direction Générale de la Santé.
Un message qui, et c'est un peu normal, hein, tarde parfois à arriver. L'annonce, elle a été faite à 16h30, il n'est que 18h. Nerissa Emani, bonsoir. Vous vous êtes rendue dans une pharmacie du 18e arrondissement de Paris et c'est vous qui avez annoncé la nouvelle.
Oui, exactement. À l'heure qu'il est, sur son ordinateur, Guillaume, le pharmacien, n'a reçu aucun message de la Direction Générale de la Santé, alors même qu'il a vacciné 11 personnes aujourd'hui.
Oui, on est surprise, d'autant plus qu'on vient de terminer le premier jour de vaccination à l'officine. Moi, ça me met dans une position désagréable parce que pour les personnes que j'ai vaccinées aujourd'hui, par exemple, qui pourraient revenir vers moi en me demandant de quoi il s'agit. Maintenant, encore une fois, on n'a pas tous les éléments aujourd'hui pour juger de est-ce que c'est grave ou pas.
Dans l'officine, Sylvie, 59 ans, est inquiète, elle qui n'avait déjà pas confiance en l'AstraZeneca.
Comme il y a un doute et que ça gagne beaucoup de pays en Europe, il faut effectivement arrêter tant qu'on n'a pas des précisions.
D'autres restent plus prudents, plus mesurés, comme Judith, 65 ans. Elle avait prévu de se faire vacciner.
De toute façon, les vaccins, dans l'histoire de la vaccination, ça n'a jamais été des choses complètement anodines. Ah, de toute façon, ça ne remet pas en cause ma volonté de me faire vacciner quand ça sera possible, bien sûr. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Moi, j'essaie de faire confiance.
Quoi qu'il en soit, les pharmaciens ici ont décidé d'appeler une à une chaque personne vaccinée dans la journée pour les informer de cette suspension.
Nerissa Emani en direct donc de cette pharmacie du 10e arrondissement de Paris pour RTL. Alors au-delà des annonces sur la vaccination, il y a une autre phrase prononcée par Emmanuel Macron qui a retenu ce soir notre attention.
Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions et nous aurons encore à en prendre. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement.
Nous aurons sans doute de nouvelles décisions à prendre. Quand on entend ça, forcément, on pense à un éventuel reconfinement. On le sait depuis plusieurs jours, l'Île-de-France est en sursis. Bonsoir Agathe Landé, quels sont les derniers chiffres?
Eh bien, les hôpitaux parisiens sont désormais saturés avec un taux d'occupation de 102% en réa. Ce soir, 1152 patients Covid sont en réanimation à Paris. Enfin, si l'on regarde les données de la circulation du virus, là, tous les indicateurs sont au rouge. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants a encore augmenté. 5 départements franciliens flirtent ou sont bien au-dessus des 400 cas pour 100 000 habitants. C'est la ligne rouge fixée hier par le Premier ministre, à partir de laquelle il faudrait prendre des mesures supplémentaires.
Bon, mais est-ce que les transferts de patients qui ont débuté ce week-end, Agathe, peuvent suffire? Est-ce que ça va suffire, ça?
Bah, a priori, non, ça paraît compliqué car tous les jours, environ 70 nouveaux malades sont admis en réanimation. 70, alors que ce week-end, on a pu évacuer que 6 malades en tout. À partir d'aujourd'hui, sont prévues 6 évacuations par jour en avion sanitaire, puis 2 TGV sanitaires à la fin de la semaine. Tout lit qui se libère est bon à prendre, nous dit ce soir un urgentiste, mais clairement, au rythme de ces évacuations, c'est un peu comme si on essayait de vider une baignoire avec un verre d'eau.
Merci beaucoup Agathe Landé. J'ajoute qu'un nouveau conseil de défense aura lieu mercredi, en présence bien sûr d'Emmanuel Macron, mais aussi de Jean Castex, le Premier ministre qui préparait aujourd'hui l'après-nouvelle conférence sociale pour évoquer la sortie de crise. L'idée d'une nouvelle prime pour les salariés de la deuxième ligne a notamment été évoquée.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur, notamment sur le Covid. On en reparlera, je vous rappelle, dans quelques minutes avec le professeur Juvin. Et dans un instant, on va partir en Syrie. Ça fait 10 ans maintenant que la guerre fait rage là-bas. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Sotto.
18h09, la suite du journal. Ça fait donc 10 ans, Amandine, 10 ans que la guerre en Syrie a débuté.
10 ans et déjà plus de 388 000 morts. Certains enfants n'ont connu que ça, la guerre, l'horreur. À Raqqa, médecins et enseignants tentent de venir en aide à cette génération à jamais traumatisée, mutilée aussi. Wilson Fache s'est rendu sur place pour RTL Reportage.
Dans ce centre de rééducation physique de Raqqa, les trois quarts des patients sont des enfants. Abdallah Al-Ali est physiothérapeute. Lui-même n'avait que 13 ans lorsque le conflit a débuté.
10 années de guerre ont affecté cette génération et nous allons faire de notre mieux pour alléger leur souffrance physique et psychologique. Mais les effets de la guerre vont encore se faire sentir pendant des décennies.
L'école primaire Awari Boumedéine accueille 1500 enfants et tous ont moins de 10 ans. Soit 1500 Syriens qui n'ont jamais vécu en temps de paix. Si la guerre n'est pas terminée, la fin des combats dans cette partie de la Syrie a tout de même permis un retour à un semblant de normalité, comme nous l'explique Zahir, une enseignante de 27 ans.
Nous sommes optimistes. Oui, les enfants auront un avenir meilleur. Grâce à l'école et au centre de divertissement, ils commencent à oublier les années de guerre. Nous faisons de notre mieux pour que cette génération ne soit pas perdue.
Chaque sourire est la preuve que le conflit n'a pas tout emporté. Mais la tâche est immense pour sauver cette génération sacrifiée.
À Raqqa en Syrie, le reportage de Wilson Fache pour RTL. Selon l'UNICEF, depuis le début de ce conflit, près de 12 000 mineurs ont été tués ou blessés à travers le pays.
Et vous le rappeliez, plus de 388 000 morts là-bas. RTL vous le révélait ce matin, de nouveaux soupçons planent sur Nordal Lelandais, le corps d'un jeune homme de 18 ans a été exhumé près de Strasbourg.
Le corps de Thomas Rochekolb, un garçon disparu en 2015 près de Grenoble. Autre affaire peut-être relancée ce soir, c'est celle d'Ahmed Amadou. Lui a disparu en septembre 2012 lors d'un festival au Fort Amier en Savoie. Des ossements avaient été retrouvés en octobre dernier. On apprend aujourd'hui, Frédéric Perruche, qu'il s'agit bien des siens.
Oui, l'ADN a parlé. Il s'agit bien du crâne d'Ahmed Amadou retrouvé en octobre dernier dans une forêt à proximité du fort. Des expertises complémentaires sont actuellement menées pour confirmer l'information et surtout essayer de trouver des traces de coups ou autres afin de déterminer l'origine du décès. Mais pour la famille, cette découverte est essentielle car elle va permettre de réactiver l'enquête, de lancer un appel à témoins, par exemple, pour comprendre ce qui s'est passé le soir de la disparition le 9 septembre 2012. Farida, une des sœurs d'Ahmed Amadou.
Ce qui est bien, c'est qu'ils vont avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer l'enquête. Donc, qu'on arrive à savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, que justice soit faite. Parce qu'il y a des personnes qui savent ce qui s'est passé.
Pour vous, ce n'est pas un accident?
Pas du tout. J'aimerais savoir la vérité. On ne vit plus normalement. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous a rongé pendant des années, qui nous a détruits. Ça m'embête d'avoir un traitement pour vivre, quoi. C'est pas normal.
Pour la famille, la piste de Nordal Lelandais est possible. Les deux hommes se connaissaient probablement car ils fréquentaient les mêmes lieux autour de Pont de Beauvoisin. Mais pour l'instant, aucun élément matériel ne relie le meurtrier présumé de la petite Maëlys à Ahmed Amadou.
Et Frédéric Perruche, le correspondant d'RTL dans la région de Lyon, du cinéma, Thomas, et après les Césars
que vous avez adoré ici en France.
Les Oscars, nominations aujourd'hui, hein, Cocorico, The Father, le film de Florian Zeller.
Vous savez qu'en Espagne, je crois que c'est des soignants qui ont remis l'équivalent des Césars. C'était chic,
ça c'est bien.
Ça c'était classe. Voilà.
Pas plus de commentaires.
Allez-y, continuez.
En tout cas, le film de Florian Zeller, donc The Father, décroche aux Oscars, cette fois, pas moins de 6 nominations, dont celle du meilleur film. Le grand favori, c'est le film Mank de David Fincher avec Gary Oldman dans le rôle principal. 10 nominations au compteur. Le verdict, ce sera le 25 avril prochain.
Et Corinne Massiero y sera sans doute. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Du tennis avec un record pour un Français, Richard Gasquet, qui a gagné aujourd'hui son 550e match. C'est la première fois qu'un Français passe ce cap. 550 victoires donc, pour 331 défaites. Est-ce que vous savez où en est votre ami Federer, Thomas ?
Oui, il a plus de 1000. Il s'attaque au record, là. Il a encore quelques matchs à gagner pour battre le record.
1243 victoires pour seulement, si j'ose dire, 272 défaites.
Eh bien, ce sont 272 défaites de trop. Voilà. Mais bon, il est fair play, il en laisse quelques-unes, n'est-ce pas, Louis ? Il en laisse quelques-unes aux adversaires.
Sinon, ce serait pas drôle. Il nous a montré ça la semaine dernière, non ?
Ne réactivez pas mon chagrin comme ça. Merci beaucoup, Amandine. Dans un instant, on va parler de la situation sanitaire. Il était urgent de se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Depuis cet après-midi, il est urgent de tout arrêter avec ce même vaccin. Dans un instant, c'est donc le professeur Philippe Juvin qui est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Il est aussi le maire des Républicains de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Le professeur Philippe Juvin est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Philippe Juvin.
Bonsoir.
Il y a sans doute une question qui écrase toutes les autres ce soir, alors que l'utilisation du vaccin AstraZeneca est suspendue jusqu'à jeudi au moins, dans l'attente d'un avis de l'Agence européenne du médicament. 9 pays européens ont suspendu son utilisation. Avant même l'annonce d'Emmanuel Macron tout à l'heure, les pompiers des Bouches-du-Rhône avaient décidé de ne plus l'administrer à leurs collègues. Ce vaccin AstraZeneca, Philippe Juvin, est-il dangereux?
Écoutez, moi, je n'ai pas les éléments pour le dire. Même au contraire, la Société de médecine vasculaire, ce matin, a expliqué qu'il y avait 28 cas décrits pour, je crois, 8 millions de vaccinés, c'est-à-dire 28 cas de thrombose. C'est-à-dire en deçà de ce qu'on observe habituellement dans une population sans qu'on intervienne avec un vaccin ou un médicament. Donc, je n'ai pas les éléments qui permettent de justifier qu'on l'arrête. En revanche, je pense que dès lors qu'on prend cette décision, il faut avoir un plan B. Et le plan B, c'est de vacciner massivement avec les autres vaccins restants, c'est-à-dire le Pfizer.
Ben là, on a un gros problème avec votre plan B. C'est que vous savez bien que du Pfizer, on n'en a pas assez. Déjà qu'avec l'AstraZeneca, on n'y arrivait pas.
Vous m'avez invité il y a 2 mois, et je vous ai dit il y a 2 mois, avec le Pfizer ou le Moderna, il faut aller trouver Monsieur Pfizer ou Madame Moderna, acheter les licences, quoi qu'il en coûte, les faire fabriquer en France. À l'époque, le ministre, porte-parole du gouvernement m'avait ridiculisé sur le mode « on peut pas fabriquer des vaccins comme ça, il faut 5 mois pour monter une usine, enfin ça fait déjà 2 mois, donc on n'aurait plus que 3 mois devant nous ». Non, je pense que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est « il nous faut un plan B ».
Il y a deux sujets. Le sujet numéro un ce soir, c'est « est-ce qu'on a joué avec la santé des Français en administrant l'AstraZeneca ?» Moi, j'imagine ceux qui se sont déjà fait vacciner, ils doivent s'inquiéter quand même ce soir, non ?
Non, d'abord, je pense qu'ils ne doivent pas être inquiets. Ça ressemble quand même à du principe de précaution. Encore une fois...
Un excès de principe de précaution ?
Je ne sais pas si ce n'est pas un pléonasme, mais aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments... Enfin, moi, je n'ai pas les éléments pour vous dire qu'il y a un danger. Et il semble même que le patron de l'Agence européenne du médicament aurait fait une déclaration devant la Commission environnement-santé du Parlement européen il y a quelques instants, et a dit « L'Agence européenne n'a pas de raison d'interdire l'AstraZeneca. » Donc, pas de panique avec l'AstraZeneca. On n'a pas les informations qui nous permettraient de justifier de telles décisions.
Et à l'instant, l'Organisation mondiale de la santé dit que les pays devraient continuer à vacciner avec AstraZeneca. Vous feriez vacciner vos proches avec ce vaccin ?
Oui, je l'ai déjà fait d'ailleurs.
Ouais. Donc vous avez confiance ?
Oui, enfin, vous savez, un médicament, d'abord, c'est potentiellement toujours dangereux. Je vous invite à lire la notice du paracétamol.
Non, parce qu'on ne prend plus de Doliprane, si on lit. Si on lit, on ne prend plus rien.
Regardez la notice du Doliprane ou du paracétamol, c'est la même chose. C'est épouvantable, hein. Il faut faire très attention. Donc tous les médicaments, par définition, ont un risque. La question, c'est la balance entre le bénéfice du médicament, le vaccin en l'occurrence, et le risque de la maladie. Le risque de la maladie, quel est-il ? Chez les patients âgés ou avec des polymorbidités, c'est le risque de mort et de réanimation, bien sûr. Et chez les plus jeunes, il y a des risques, par exemple, de Covid long, c'est-à-dire d'attraper la maladie et de garder des séquelles ennuyeuses. Hein. Pendant 6 mois, il y a un papier qui a été publié dans une revue américaine qui a montré, il y a quelques semaines, qui a pris 150 cas de gens qui avaient eu le Covid pas trop grave, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas allés à l'hôpital, vous voyez. Et ils avaient eu des signes, mais pas suffisamment pour aller à l'hôpital. Et ils ont regardé 30% de ces patients, y compris des gens de 40 ans, gardaient 6 mois plus tard des séquelles à type de fatigue et de troubles de la concentration.
Philippe Juvin, comment admettons que, ce qui est probable, hein, parce que si on voit les déclarations de l'OMS et de l'Agence européenne du médicament dès ce soir, on va reprendre la vaccination à l'AstraZeneca, comment restaurer la confiance ? Parce que ce sont des annonces qui font mal à la confiance ce soir.
Ah mais je vais vous dire, je pense que depuis le début de cette épidémie, une des questions fondamentales, c'est la question de la confiance. Contre le Covid, il faut quoi ? Il faut d'abord de la rigueur. Il faut de la rigueur, il faut du sang-froid, il faut prendre des décisions quand c'est nécessaire, il faut les expliquer quand on ne les prend pas, d'ailleurs il faut aussi les expliquer quand on les prend. Bref, il faut la tête froide, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a un emballement sur l'AstraZeneca depuis quelques heures. Et si l'AstraZeneca est finalement montré du doigt comme étant sans problème, demain ou après-demain, ce que j'espère bien entendu, j'espère que cette aventure ne laissera pas de traces.
Alors un problème, on en a un énorme avec la propagation de ce Covid-19, et notamment en Ile-de-France, dans la région où vous exercez. Le taux d'occupation des lits global, il est de 102%. Toutes les 12 minutes, un francilien est admis en réanimation, disait jeudi dernier Olivier Véran. Et écoutez ce que disait Jean Castex, le Premier ministre, hier dimanche.
On a démarré dans ces départements, quand il était à 400 pour 100 000 habitants.
Et là, je sais qu'en Ile-de-France, on est un peu en dessous.
Il est encore en dessous. Tant que les chiffres ne sont pas atteints, on n'est pas loin, mais ils ne le sont pas, on ne peut pas prendre exactement les mêmes mesures.
Alors ça, c'était hier sur Twitch, sauf que ce soir, ça y est, on a dépassé les 400 cas pour 100 000 habitants. On est à 404 cas pour 100 000 habitants. Ma question aux professionnels de santé est simple. Est-ce qu'il faut... reconfiner ? Est-ce qu'il faut confiner l'Île-de-France ? Est-ce qu'il faut prendre des mesures d'urgence ? Ou est-ce que vous pouvez encore tenir ?
D'abord, il y a un principe, c'est plus vous confinez tôt, quand vous devez confiner, plus vous confinez tôt, plus vous faites un confinement qui est efficace et qui peut être court. Et là, c'est vrai qu'on laisse courir le virus depuis maintenant le début de l'année. Depuis le début de l'année, cette histoire traîne. Moi, je pense qu'il pouvait être légitime de ne pas confiner jusqu'ici, à condition qu'on mette ce temps à profit pour se préparer. Par exemple, qu'on ouvre des lits de réanimation. Parce qu'on voit bien que le sujet, in fine, c'est la saturation du système hospitalier. Moi, ma crainte, si vous voulez, c'est qu'on en est pour 2 à 3 semaines dans les meilleurs des scénarios, sans amélioration. Dans les pires, c'est évidemment différent. Et que nous puissions être dans une situation où nous ne pourrions plus accueillir des patients de réanimation. Donc, encore une fois...
Ça veut dire quoi ? Parce que l'an dernier, les médecins que vous êtes avaient dû faire du tri entre les patients. C'est un peu un sujet tabou, mais on sait que ça existait. Est-ce que ça peut se renouveler là ? Est-ce qu'il y a un risque de devoir faire du tri entre patients ?
À l'heure où je vous parle, nous avons dans les réanimations autant de patients en Ile-de-France que nous en avions au pic du confinement du mois de, d'octobre-novembre, de l'automne. Donc oui, il y a beaucoup de patients. À partir du moment...
Et le risque de tri ?
Par définition, en médecine, on fait toujours du tri, même en période normale. Quand vous, quand vous êtes de garde le soir en réanimation, vous avez un lit, vous avez deux patients qui viennent, vous êtes bien obligé de choisir. Donc la question est de savoir sur quels critères on fait le tri. Effectivement, vous avez raison. Le grand danger, c'est de ne plus pouvoir soigner tout le monde. Mais pardon, on a l'impression de vivre là un peu en apesanteur, mais c'est ce qu'on fait déjà depuis maintenant plusieurs semaines. Depuis plusieurs semaines, le tri, il concerne les patients qui n'ont pas le Covid, puisqu'on a des patients qui n'ont pas le Covid et qu'on ne peut pas opérer à l'hôpital. Ces patients-là, ce sont aussi les victimes de l'absence de décision. Moi, j'étais frappé, si vous voulez, il y a quelques semaines, quand j'entendais les commentaires des autorités sanitaires qui disaient « on va tenir bon, on va croiser les doigts ». Mais moi, je ne veux pas qu'ils croisent les doigts, je veux surtout qu'ils mettent à profit cette période, par exemple, pour ouvrir des lits de réanimation.
Ce qui n'a pas été fait.
Et non, regardez, en mois de mars, on a commencé...
Est-ce que les cliniques privées sont sollicitées ?
Oui, tout le monde joue.
Et suffisamment sollicité ?
Oui, moi, par exemple, dans mon service, on téléphone à 14 cliniques privées systématiquement tous les matins pour leur proposer des patients et elles les prennent sans aucune difficulté. Ouais. Non, je vous dis, moi, j'ai deux inquiétudes. Les patients Covid de réanimation, est-ce qu'on va pouvoir tous les accueillir ? Si ça continue comme ça, il y a un moment où ça va coincer, pardon, et on y est presque. Et deuxièmement, ce sont les patients qui n'ont pas le Covid et qu'on n'arrive plus à traiter correctement, en particulier à ne plus opérer.
Et les transferts de malades vers d'autres régions, on sait que ça a commencé, il y en aura probablement une centaine d'ici la fin de la semaine, a dit le porte-parole du gouvernement. C'est une solution, c'est une partie de la solution, ça ou pas ?
Oui, bien sûr, on l'avait fait au mois de mars.
Et c'est suffisant ?
D'abord, il faut que vous sachiez que ce n'est pas la solution miracle. On a fait une petite étude ce week-end pour savoir dans tout le lot des patients de réanimation d'Île-de-France quelle était la proportion de ces malades qui étaient éligibles, c'est-à-dire dont l'état clinique permettait de transférer les patients, parce que le transfert se fait dans des conditions très sécurisées, hein, il y a des médecins, etc. Sauf que certains patients sont tellement malades qu'on ne peut pas les transférer. Eh bien, tenez-vous bien, on considère qu'il n'y a guère que 10-11% des patients de réa qui peuvent être transférés. Là-dessus, quand vous ajoutez une deuxième condition, qui est de demander aux familles, est-ce que les familles sont d'accord ?
C'est d'accord, les familles.
Eh bien, vous tombez à quasiment rien, puisque, à ma connaissance, il y a qu'un patient qui a accepté, enfin non, la famille a accepté qu'il soit transféré. Donc, l'objectif ça doit être le porte-parole du gouvernement qui dit 100 patients transférés à la fin de semaine, pardon, ça fait partie de ces déclarations à l'emporte-pièce dont on est très fatigué et dont on n'est pas du tout sûr qu'elles se réalisent.
Vous ne m'avez pas répondu sur le confinement. Est-ce qu'il faut confiner en Île-de-France ?
Aujourd'hui, on est dans une situation où personne ne veut être évidemment confiné. Je vous dis, ma crainte, c'est qu'on ne puisse plus accueillir de patients en réanimation d'ici quelques jours ou une semaine ou deux. Et bien là, on n'aura pas le choix. Ouais.
Donc la réponse est oui.
Et là, on aura
mais
pas
le week-end ou un vrai confinement pour que ça soit efficace ?
Alors, d'abord, moi je pense que c'est la double peine. Vous travaillez le week-end et vous travaillez la semaine, pardon, et le week-end on vous dit que vous êtes confiné. Donc ça c'est un confinement qui évidemment qui n'en est pas vraiment un, dans la mesure où il y a des interactions sociales durant la semaine. Et en plus, quand vous êtes crevé, vous arrivez le week-end, vous pouvez pas vous reposer. Enfin, vous pouvez vous reposer, mais chez vous. Donc il faudra. Je n'ai pas la réponse à votre question. Ce qui est certain, c'est que la situation actuelle, où on semble regarder le truc en disant « ça va passer », c'est une situation qui ne passera pas.
Voilà. Philippe Juvin, vous êtes aussi un politique, vous serez d'ailleurs tête de liste dans les Hauts-de-Seine pour les régionales en juin. Il y aura peut-être une primaire à droite pour la présidentielle. Vous avez dit vous y préparez. En clair, est-ce que vous serez candidat à cette primaire si elle a lieu ?
Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'espère qu'il y aura une primaire parce qu'il y a une certitude. C'est que si la droite veut espérer être au second tour des élections présidentielles, il faut qu'elle ne présente qu'un seul candidat.
Ouais.
Si elle y va à 2, 3, 4 candidats, évidemment, l'affaire est finie. Et le deuxième point, la primaire a un intérêt qui est absolument majeur, que personne ne souligne. Au-delà de choisir un candidat, c'est d'échanger sur les programmes. Souvenez-vous de la primaire de la droite de la dernière fois, celle qui s'est mal finie, mais pas à cause de la primaire, à cause des affaires. Elle avait permis de mettre sur la table des programmes très différents entre Alain Juppé et Fillon. Et donc, il y a la question des idées, et c'est aussi la question des primaires.
Mais pour vous, c'est donc pas Emmanuel Macron le meilleur candidat de droite ?
Emmanuel Macron, c'est le candidat de la majorité présidentielle, me semble-t-il. Moi, ce que je refuse, c'est l'idée que le match est joué un an avant. Et vous voyez bien, tout le monde essaie de dire « Ah bah, ce sera Le Pen-Macron et donc c'est plus la peine d'y aller ». Non, la démocratie, c'est beaucoup plus ouvert que ça, heureusement.
La présidentielle de l'an prochain se fera-t-elle sous le signe du Covid, Philippe Juvin ? Cette épidémie a déjà fait plus de 90 000 morts en un an. Le pire est-il passé ou le pire peut-il encore être à venir ?
Écoutez, ça fait un an qu'on me demande de commenter l'épidémie et je n'ai jamais fait de prédiction, parce que je suis médecin et pas devin, même si ça rime. Ce que je sais, c'est que si on ne vaccine pas massivement, si on ne tire pas les leçons de nos échecs et de nos erreurs, parce qu'on a quand même fait quelques erreurs dans cette affaire, et si on ne rétablit pas la confiance, ça sera sous le signe du Covid.
Merci beaucoup d'être venu ce soir, professeur Philippe Juvin, dans RTL Soir. À suivre, l'œil de Natacha Polony, la patronne de Marianne, qui a un très mauvais arrière-goût de viande de cheval dans la bouche ce soir, et elle va nous expliquer pourquoi.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et à la une, ce nouveau coup de tonnerre sur le front de la vaccination. La France suspend à son tour l'utilisation du vaccin AstraZeneca, une mesure de précaution annoncée par Emmanuel Macron qui dit désormais attendre l'avis de l'Agence européenne du médicament. Emmanuel Macron qui explique qu'il prendra sans doute de nouvelles décisions dans les jours qui viennent. L'Île-de-France sera-t-elle ou non reconfinée ? Un nouveau conseil de défense aura lieu mercredi. Mais ce soir, les derniers chiffres ne sont pas rassurants. Région parisienne, le taux d'incidence dépasse désormais les 400 pour 100 400. C'était la ligne rouge fixée par le gouvernement. Sur RTL, Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, appelle à agir et vite. Ma crainte, dit-il ce soir, c'est de ne plus pouvoir accueillir de patients, de ne plus pouvoir soigner tout le monde d'ici quelques jours.
La météo, Louis Baudin, nous aurons droit à un temps de mars.
Exactement.
Ça tombe bien parce qu'on est en mars.
Je ne vais pas arranger les choses avec ma prévision météo, puisque c'est vrai qu'il fera très très nuageux. On n'aura pas beaucoup de lumière demain, encore moins qu'aujourd'hui. Le toit accompagné de pluie, de neige en montagne, va continuer à tomber en masse.
C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui oublieront les lunettes de soleil demain.
Voilà, c'est ça.
C'est positivé un peu.
Si, alors prenez la Méditerranée. Allez tous sur les bords de la Méditerranée, parce que là, on aura du soleil avec l'aide du vent. Ou alors encore un peu en Bretagne aussi, on aura peut-être un peu plus d'éclaircies. D'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, des averses, de la neige en montagne, toujours un fort risque d'avalanche dans les Alpes. Et puis, les températures, on ne sera pas très loin des gelées demain matin dans les régions du centre et du nord-est. Et l'après-midi, 7 à 10 degrés de la région Rhône-Alpes à l'Alsace, n'est pas de saison. 10 à 13 degrés, là c'est un peu mieux ailleurs. Et 15 à 17 degrés même près de la Méditerranée.
Merci, à tout à l'heure. Nous sommes lundi, il est 18h33, c'est l'œil de Natacha Polony. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Chef Polony ce soir, vous êtes en cuisine et vous voulez nous parler des produits laitiers, des plats préparés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Vous avez pu en fait entendre ça annoncé sur cette antenne. Jeudi dernier, le Conseil d'État a donné raison à Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, dans un dossier qui nous concerne tous. La plus haute juridiction administrative française vient d'annuler l'obligation d'indiquer l'origine du lait ou de la viande sur un produit ou un plat transformé. Le motif, c'est que ce serait contraire aux règles européennes. En fait, pour faire simple, quand vous achetez un produit frais, un rôti par exemple, vous avez l'âge de lavage, vous avez le nom de l'éleveur, pour le poisson, vous savez où et par qui il a été pêché. Ça s'appelle la traçabilité, sans laquelle, évidemment, le consommateur ne peut pas avoir confiance. Mais les règles ne sont pas les mêmes pour les produits industriels, ceux justement qui peuvent jouer sur l'origine et la qualité. Donc, si votre yaourt est fait avec du lait venu de Pologne ou de Nouvelle-Zélande, c'est terminé depuis le 11 mars, vous n'avez pas à le savoir. Même chose si la viande de votre hachis parmentier surgelé vient de Roumanie ou d'ailleurs.
Mais alors, pourquoi ce jugement-là maintenant ? Pourquoi ?
D'ailleurs, pour commencer, pourquoi cette obligation au départ ? Vous vous souvenez du scandale de la viande de cheval roumain dans des lasagnes surgelées ?
Absolument.
On avait découvert à cette occasion l'opacité du marché de la viande, les fraudes que ça pouvait provoquer. Du coup, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, avait plaidé pour un étiquetage précis, histoire d'informer le consommateur de ce qu'il a dans son assiette. Il s'était battu, il avait obtenu, à titre d'expérimentation de la part de la Commission européenne, de mettre en place l'étiquetage obligatoire. Et c'était une conquête majeure. L'obligation a été reconduite jusqu'en mars 2020, et puis après, non. Et du coup, quand le gouvernement français a dit « L'Union européenne nous lâche, mais nous, on va continuer seul », Lactalis a porté plainte pour abus de pouvoir.
Mais abus de pouvoir, pourquoi abus de pouvoir ? Je croyais que c'était une information pour le consommateur. Il est où l'abus de pouvoir ?
Justement, laisser le consommateur choisir en conscience, c'est donc considéré comme insupportable. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché, du coup le Conseil d'État s'est aligné. On peut obliger un industriel à informer sur la provenance d'un produit si deux raisons sont réunies. Les consommateurs y attachent de l'importance et il existe un lien avéré entre certaines propriétés d'une denrée alimentaire et son origine. C'est le cas des appellations d'origine contrôlée. Mais là,
Il s'agit surtout de permettre au consommateur d'être aussi un citoyen, de considérer qu'il veut préserver une filière, se dire qu'il valorise les pays dont il sait qu'ils exercent un certain contrôle de qualité, plutôt que d'aller uniquement au moins cher. Et bien donc, l'Union européenne considère que ça, c'est contraire à la liberté du commerce. Bah oui, allez savoir si les citoyens français préféraient le lait produit en France pour faire vivre leurs agriculteurs, vous imaginez l'horreur, hein, on est à la limite de la xénophobie. Alors le mieux, bah, c'est de continuer à consommer les yeux grands fermés, à manger des lasagnes à la viande de cheval et des yaourts au lait venus du bout du monde, on laisse crever nos agriculteurs, on massacre la planète, mais la liberté de commerce est préservée.
Je vous sens quelque peu ironique.
Non, vous croyez ?
Il y a eu un changement de son parce que je vous ai fait baisser votre masque parce qu'il était très opaque celui-là. Ouais. Et je précise pour nos auditeurs qui l'ont forcément entendu qu'on est vraiment là, on est à 2,50
m. Oui, hein, dans le studio, on est très, très loin.
Tout va bien. Merci beaucoup Natacha. Demain, ce sera Philippe Cavrière qui n'est jamais trop loin de nous. Elle a connu et raconté la guerre. Elle est une personnalité hors norme que rien ne semble arrêter. Elle se raconte dans une BD originale. Anne Niva publie dans La Gueule du Loup et elle vient nous en parler tout de suite.
RTL Soir.
Thomas Soto.
RTL Soir.
Elle est reporter de guerre, lauréate du prix Albert Londres, qui est un peu l'Oscar de la profession, et elle publie chez Marabule une bande dessinée dans La Gueule du Loup, avec Jean-Marc Thévenet et le dessinateur Horn. Anne Niva est donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Anne Niva.
Bonsoir, merci beaucoup Thomas.
Ou peut-être devrais-je dire bonsoir Nina, puisque c'est votre nom dans la
contre.
BD. Hein, une question sur la forme, peut-être pour commencer. Vous auriez pu raconter vos souvenirs de guerre dans un livre ultra classique, un bon gros pavé. Pourquoi vous avez choisi la BD ?
Non mais des livres, j'en écris.
Oui.
J'en ai beaucoup écrit sur la guerre. Et puis j'en écrirai sans doute d'autres. Mes livres, c'est la réalité. Mes livres, c'est du pur journalisme. C'est-à-dire, il y a les faits, rien que les faits. Mmh. Tandis que là, c'est autre chose. Là, c'est une liberté que j'ai osé, dont j'ai osé me saisir, en fait.
Mais une liberté, c'est un récit ou
c'est fictionnalisé. Il y a des deux.
Ouais.
Il y a des deux.
Ça, c'est toujours un peu vache, parce que du coup, on ne sait jamais, on se demande. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai.
Mais je crois que ceux qui me connaissent et qui me lisent, surtout dans mes livres, vont comprendre en lisant la BD ce qui est vrai, ce qui l'est moins. Mmh. Mais ce n'est pas ça le plus important, Thomas. Le plus important, ce n'est pas si c'est moi, Nina, ou si ce n'est pas moi. Bien sûr qu'il y a beaucoup de moi dans Nina. C'est ce que j'ai voulu raconter dans cette BD. C'est-à-dire, il y a d'abord une ode au journalisme.
Mmh.
C'est-à-dire que dans cette société d'aujourd'hui où on est dans les fake news, on est dans la défiance envers les journalistes, et ça m'attriste beaucoup. J'avais vraiment envie depuis longtemps de remettre cette profession à l'honneur. Mmh. Et moi, ce que je sais faire, c'est aller chercher les faits. Voilà.
Reporter de guerre, c'est déjà pas simple. J'allais dire au masculin, comment dire dans le monde. Mais alors, reporter de guerre, est-ce que c'est encore plus compliqué?
Reportrice de guerre, ou je sais
vous
pas
dites
comment
reportrice,
on dit.
Vous
Non, je ne sais pas
c'est
comment on dit. Oui, absolument. Mais en tout cas, je suis une femme.
Ça, c'est vrai.
Non, il y a de plus en plus de femmes reporters de guerre. Mais bien sûr qu'il y a du machisme dans cette profession, et de la misogynie, etc. etc. Et d'ailleurs, j'en ai un peu aussi profité. C'est-à-dire que Nina, elle s'en laisse pas compter, mon héroïne.
Oui.
Et ça, je voulais le montrer aussi. Ça m'importait beaucoup. Donc, je voulais réhabiliter le journaliste de terrain. Montrer que les femmes aventurières, et je ne suis pas la seule, et beaucoup de femmes qui m'écoutent le sont aussi. Il n'y a pas besoin d'être reporter de guerre pour être aventurière. Ne s'en laisse pas compter, qu'on ne se laisse rien imposer par les hommes. Et puis, la dernière chose, c'est ce questionnement général sur la guerre. C'est-à-dire, voilà, on a Nina, elle fait parler deux hommes. Un qui a quitté son pays, qui l'a fui.
Ça, c'est Mahmoud.
C'est Mahmoud.
Le Tchétchène.
Et il a voulu arriver en France où il n'a pas réussi à rentrer. Il s'est fait retoquer, si je puis dire, à la Légion étrangère. Et puis l'autre, Abdel, c'est un Français. Je l'ai mis dans l'Ariane à Nice parce que c'est un quartier que je connais. Et lui, parce qu'il se sent mal dans son pays, parce qu'il dit « je suis arabe et musulman, c'est la double peine », lui, il veut aller chercher la guerre.
Il va la faire en Irak.
Et Nina, elle a rencontré les deux. Pas au même endroit. L'un en Tchétchénie, l'autre en Irak.
Alors, Mahmoud et Abdel, ils ont vraiment existé ou pas ? Sont des vrais personnages ou pas ? C'est comme Nina, c'est un peu de vrai et un peu de faux et un peu de fiction ?
Mahmoud, sur les deux garçons, il y en a un qui a existé et un autre que j'ai inventé.
Alors, c'est Mahmoud.
Voilà, là, je vous dis déjà beaucoup de choses.
Non,
et je ne répondrai pas à cette deuxième question, Thomas.
Quand on lit la BD, on se rend compte que Mahmoud a existé.
L'important, c'est effectivement les messages que je veux faire passer et le fait, là, j'insiste beaucoup là-dessus, grâce au dessin. C'est-à-dire que je crois que j'aurais jamais pu écrire ce que j'ai écrit avec mon co-scénariste Jean-Marc Thévenet. J'aurais jamais osé le faire si j'avais pas eu le dessin fin, presque poétique de Horn, pour raconter des choses que je n'avais jamais dites de la guerre.
Alors, il y a le dessin, puis il y a la couleur aussi.
Oui, tout à fait.
Il y a presque un code couleur dans ce livre,
oui,
en fonction des scènes, des moments, des ambiances.
Exactement, et des flashbacks,
ouais.
Tout à fait. Il y a beaucoup de vert, qui est la couleur de l'islam, la ouais. couleur de l'espérance, la couleur de l'herbe. Il y a beaucoup de mauve, il y a beaucoup de bleu, les cieux, il y a de l'orange, puisque ouais. il y a beaucoup de bombardements. Mais tout ça, c'est différentes façons, si vous voulez d'attirer les gens, la concentration qu'il faut pour lire une BD, elle se lit vite. Hein.
Ouais, et elle se lit bien. Et ce titre, Dans la gueule du loup, il s'adresse à qui ? C'est la
On
femme
a beaucoup
reporter
hésité sur
qui
le
se
titre.
Jette dans la gueule du loup en allant sur le terrain. C'est le reporter de terrain qui se jette dans la gueule du loup. C'est qui se jette dans la gueule du loup ?
C'est un peu tout ça. C'est-à-dire, la gueule du loup, c'est le piège. Le piège, c'est la guerre, bien ouais. sûr. C'est pas seulement le reporter qui se jette dans le piège. Puisque le reporter, son seul rôle, me semble-t-il, hein, c'est d'être une intermédiaire, un ou une intermédiaire, c'est-à-dire
c'est facile même sur une
de
zone
rester
de guerre,
à sa place.
C'est facile parce qu'on n'a pas, on n'est pas pris d'empathie pour un camp par rapport à l'autre. Est-ce que
ça
c'est
fait
facile
des
de...
années qu'on pose cette question, Thomas. Ça fait des années que j'y réponds. Non, ben c'est pas facile. Rien n'est facile. Mais oui. qu'est-ce qui est facile dans la vie? Bien sûr que non, c'est pas facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas le faire. De toute façon, il faut aller voir
regardez,
la guerre.
Dans la BD.
Et il faut pas prendre parti. Je ne
Mahmoud.
Juge personne.
Mahmoud, c'est votre guide, ok?
Oui,
Mahmoud, il est de parti pris. Donc c'est votre guide.
Il est combattant.
Il est combattant. Il veut être armé. Vous voulez pas qu'il soit armé parce que justement,
eh bien,
vous voulez garder sa distance.
J'obtiens de lui qu'il ne soit pas armé. Je l'obtiens.
Mais il vous influence pas quand vous avez rencontré des marmoudes ou d'autres sur le terrain. Il n'y a pas un moment où vous dites, ils sont forcément.
D'abord, je n'ai jamais rencontré personne comme Mahmoud.
Ouais.
Je n'ai rencontré qu'un Mahmoud et il m'a sauvé la vie.
Donc il a vraiment existé.
Et c'était
merci.
Il y a longtemps dans la guerre en Tchétchénie.
Non, ça c'est bien déjà.
Vous êtes fort.
Non, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de partir comme ça en Tchétchénie? Parce que là, pour le coup, c'est Anniva, vous y êtes vraiment allé en Tchétchénie.
Mais y a
et vous êtes
la...
vraiment allé en Irak.
Mais bien sûr, mais quel est le journaliste qui n'a pas envie de faire ce qu'il fait? Enfin, c'est pas possible, ça. Il faut aimer ce métier, sinon on le fait mal. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est la curiosité, c'est l'autre. C'est, justement, encore une fois, quand on est dans une ère où on se renferme, j'ai toujours été dans l'inverse, mais je ne suis pas la seule. C'est très banal, ce que je dis là. Sauf que, aujourd'hui, ça se fait peut-être un peu moins. Moi, la tendance à l'entre-soi, c'est pas pour moi. J'ai horreur de l'entre-soi. La première qualité du journalisme, et ça, je pense que tous les journalistes sont d'accord, c'est s'intéresser à l'autre, quel qu'il soit, et justement s'il est loin de moi. Donc, je m'intéresse à ma Mahmoud, comme je m'intéresse à Abdel, comme je m'intéresse aux Français, puisque je viens de parcourir la France parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre qui fait suite à Dans quelle France on vit. Mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre. L'autre avec un grand
A. En fait,
A.
le mot-clé, c'est pas la guerre, c'est le terrain.
Tout
c'est,
à fait.
C'est le reportage.
Oui, effectivement, c'est sortir. Il y a différentes façons de faire du journalisme. Il y en a mille et une façons. Il y a la vôtre en studio que je respecte, que j'ai des personnes qui me sont chères qui font le même métier.
On va parler de Jean-Jacques.
Il y a plein de façons de faire du journalisme. Mais les faits, Thomas, il faut bien aller les chercher.
Oui.
Ils ne tombent pas tout cuits à votre micro. Il faut bien qu'il y ait des gens qui aillent les chercher. Donc, il y a une grande agence de presse française qui s'appelle l'AFP, qui envoie des gens sur le terrain. Moi, je n'ai jamais travaillé à l'AFP, mais j'aurais pu. Je veux dire, ça, c'est le journalisme que moi, j'ai pratiqué.
Vous avez parlé de la guerre en Tchétchénie. Vous nous y emmenez dans la gueule du loup.
En Irak aussi.
En Irak aussi. Aujourd'hui, on fête, entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout une fête, mais les 10 ans du début de la guerre en Syrie. On en parlait tout à l'heure, 388
000
morts.
Oui, je ne vois pas comment on peut fêter ça. Oui.
Le terme est malheureux, on est d'accord. Le côté dérisoire de la guerre est absurde. Quand le feu cesse, c'est tout aussi absurde. On se dit, tout ça, toute cette misère, tous ces morts pour ça. Quand vous rentrez d'une zone de guerre, vous vous dites quoi ?
Je me dis qu'on a bien de la chance de vivre en France.
Ouais.
Je me dis que c'est indécent de passer son temps à se plaindre. Et
Même si certains ont plus de raisons que d'autres de se plaindre,
mais
aussi
doute,
en France
mais enfin,
et sans connaître la guerre.
Mais bien sûr, mais comment peut-on comparer un pays en paix à un pays en guerre ? C'est indécent. Absolument indécent. Personne qui n'a pas vécu la guerre ne peut savoir ce que c'est. Donc, moi, ça n'est pas un privilège d'avoir vu la guerre. Ouais. C'est simplement quelque chose qui fait partie de ma vie. Et pourquoi je le cacherais? Pourquoi je l'oublierais? Je ne peux pas l'oublier. Ouais. Il faut qu'on sorte de notre bulle de confort. Le Covid a pris toute la place, certes. Et certes, on peut mener une guerre, comme disent nos politiques, contre le Covid. Mais quand on sort de notre bulle, géopolitiquement
parlant... Nous sommes en guerre, c'est Emmanuel Macron.
Mais il y a quand même... Il y a des événements qui se passent au moment où on est en train de parler en ce moment et dont on doit parler dans nos médias. Bien sûr qu'on ne peut pas parler de tout et que le rôle du journaliste, c'est aussi de hiérarchiser l'information, de la choisir. Ouais. Mais on ne peut pas passer son temps à ne parler que de nous-mêmes.
Alors Nina, elle a un chéri. Qu'on voit apparaître dans la télé, page 33.
C'est un clin d'œil.
Donc c'est Jean-Jacques Bourdin qu'on voit en intérieur, on reconnaît son micro.
Je l'ai voulu, ça.
Classique.
Vous l'imaginez bien.
J'imagine bien que vous n'y êtes pas pour rien. Il paraît que vous avez une immense influence sur lui. C'est vrai ça ou pas?
Écoutez, je crois que là c'est pareil. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, un couple qui dure... Ouais. Comme le nôtre, puisque nous sommes mariés femmes depuis 17 ans. Et là, je pense aussi à toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont dans mon cas. Et les hommes d'ailleurs. C'est un couple qui sait justement s'entendre. C'est un couple qui sait être à égalité. On en parle beaucoup aujourd'hui de l'égalité homme-femme. Elle est complexe, parce que dans les entreprises...
Jean-Jacques, il a autant de droits que Anne à la maison ?
Non, mais c'est pas une question de droit. C'est une question d'entente. Une question d'entente, c'est une question d'intelligence, c'est une question de complicité.
Anne Nivaille, il y a une guerre qui est infiniment...
Vous savez, c'est
plus...
pas une question de pouvoir, parce que ça, je sais ce que vous voulez me faire dire.
Qu'est-ce que
l'image
je vais vous faire
de
dire ?
Jean-Jacques, c'est l'image d'un journaliste qui a beaucoup de pouvoir.
Ouais.
Mais derrière cet homme, il y a un couple, et il y a notre couple, sur lequel je ne ferai aucun commentaire sur notre complicité, parce que là aussi je trouve que c'est indécent. Et tous ceux qui instrumentalisent cela pour autre chose, mal leur en prend.
Il y a une petite guerre
abjecte.
Complètement dérisoire en ce moment.
Totalement dérisoire, donc ça n'est pas la peine d'en
qui
parler.
Qui oppose Jean-Jacques Bourdin à Pauline. Vous savez que votre mari a dû vous apprendre que dans une interview, il y a l'intervieweur et l'interviewé et qu'on ne choisit pas ses questions.
Ah mais absolument, j'écoute votre question,
ça
Thomas.
Ça tire à balles réelles entre Jean-Jacques Bourdin et Apolline de Malherbe. Certains vous accusent de mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que vous mettez de l'huile sur le feu dans cette affaire?
Je ne vois vraiment pas ce que vous voulez dire. Parce que je peux vous dire que j'ai des choses à dire et que je ne les dis pas.
Pourquoi ?
Ah mais je ne les dis pas parce que j'ai choisi de ne pas les dire. Mais comme je suis une femme libre, je dirai tout ce que j'ai envie de dire au moment où je le choisirai.
Donc vous parlerez ?
Quand j'en aurai envie et si j'estime cela nécessaire. Pour le moment, je préfère revenir à ce que je fais, c'est-à-dire du journalisme. Et je m'excuse d'être mariée à Jean-Jacques Bourdin. Et je m'excuse d'être moi-même journaliste. Ça paraît quand même tout ça un petit peu ridicule.
Merci.
Vous savez, j'étais journaliste avant de rencontrer Jean-Jacques.
Merci Anne-Yves d'être venue à RTL. Votre BD co-signée avec Jean-Marc Thévenet et dessinée par Horn s'appelle donc Dans la gueule du loup. Je me demandais à partir de quel âge on peut la lire en fait.
Oui, ça c'est une bonne question parce que j'ai aussi des enfants qui voudraient la lire. Moi, je pense quand même qu'à partir du collège, même
sixième.
CM2 peut-être.
CM2, sixième. Merci, c'est publié chez Marabule. Merci beaucoup, Anne Nivaille, d'être venue. Dans un instant, c'est Julia Molcou et la culture de l'actu.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et la culture de l'actu, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Double déconvenue parisienne hier soir, le PSG a perdu face à Nantes, c'est sur le terrain. Et puis il y a eu ces cambriolages qui ont visé pendant la rencontre certains joueurs. Balle au centre, les cambriolages sont donc dans la culture de l'actu ce soir.
Il faut tendre un peu l'oreille pour comprendre les paroles de la marche des cambrioleurs de Victor Lejal au début du 20e. Bien plus tolérante que la réalité, encore violente hier soir, vous le disiez, chez les joueurs du PSG, la littérature a fantasmé sur les élégants cambrioleurs, les fameux gentlemen cambrioleurs. D'un côté mondain, de l'autre voleurs, dérobeurs, montant l'air, radoteurs, crocheteurs, dévaliseurs, mais sans armes ni violence.
Quand il détrousse une femme,
C'est vrai, Louis, c'est un peu vous. Alors bien sûr, il y a Arsène Lupin, créé en 1905 par Maurice Leblanc et chanté ici par Jacques Dutronc. Personnage connu pour ses étonnants déguisements qui lui permettent de flouer son entourage et de commettre ses larcins. Ce personnage a été adapté de si nombreuses fois au cinéma, à la télévision et même en série, qu'il est impossible de tout énumérer. D'autant que le cinéma s'est intéressé à d'autres cambrioleurs, y compris à ceux qui manquent de chance, de talent, voire des deux. Alors d'abord, il y a le cambrioleur maladroit et désorganisé. Et ça, c'est Charlot, dans Charlot Cambrioleur, sorti en 1916.
Charlot Cambrioleur, je ne connaissais pas.
1916, un film de 33 minutes, dans lequel il tente en vain de cambrioler une maison bourgeoise, mais ça ne se passe pas tout à fait comme il voulait. Ensuite, il y a les cambrioleurs qui passent un sale quart d'heure, comme ceux de Maman, j'ai raté l'avion, qui ne font pas du tout le poids hein, face au petit Kevin McAllister que ses parents ont malheureusement oublié chez eux. Enfin, il y a le cambrioleur loser. Et ça, c'est mon personnage préféré, c'est celui de Woody Allen, qui dans Escroc mais pas trop, avait une idée pour devenir riche, mais apparemment pas tout à fait la technique.
Frenchy, j'ai une idée brillante. De quoi nous faire devenir riche ?
Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Dévaliser une banque ?
Comment tu sais ça ? C'est fantastique. Comment t'as deviné ?
Tu vois, est-ce qu'un de vous a déjà creusé un tunnel ?
C'est pas compliqué.
Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve inondé. Et puis le cinéma aussi fait la part belle évidemment à des cambrioleurs plus chics et plus talentueux. Alfred Hitchcock, dans La main au collet, fait de Cary Grant un cambrioleur retraité mais qui doit sauver son honneur. Quant à Steve McQueen, dans l'affaire Thomas Crown, il joue un séduisant banquier mais qui s'ennuie tellement qu'il est prêt à cambrioler sa propre banque. Et il y en a un qui l'a pas volé quand même, c'est Michel Legrand qui lui, avec ce film, remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ça va devenir Les Moulins de mon cœur l'année suivante en 69 en version française. Mais la version originale, c'est ça.
C'est ce film de McQueen.
Oui.
Bah ça alors.
Bon, et puis, il y a les équipes de gentlemen cambrioleurs, comme celles menées par Brad Pitt et George Clooney, bien décidés avec leurs copains à cambrioler la réserve d'argent des trois plus gros casinos de Las Vegas, rien que ça.
Disons qu'on entre dans l'ascenseur qui refuse de répondre, qu'on passe les gardes avec leurs armes, qu'on entre dans la chambre forte qu'on ne peut pas ouvrir. Tu penses vraiment qu'on pourra sortir avec dans les 150 millions de dollars en liquide ? Oui.
Ouais.
Bon, et à part les Moulins de mon cœur version anglaise, américaine, il existe des chansons sur les cambrioleurs ?
Eh bien, j'en ai trouvé une. Elle est signée Georges Brassens. Et figurez-vous qu'il a écrit cette chanson après avoir été lui-même cambriolé. Sa maison de crêpière a été cambriolée en 72. Du coup, il écrit « Stance à un cambrioleur » dans lequel il remercie presque le bonhomme. Presque.
« Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. »
Il y a beaucoup de chansons de Brassens méconnues, celle-là en fait partie.
Stance, c'est quoi ?
Alors stance, ça me fait bizarre que vous posiez la question, nom féminin pluriel qui désigne des poèmes formés de strophes de même structure. J'étais allé bien chercher la définition.
Que l'on m'avait offert à mon anniversaire.
On va célébrer les 100 ans de sa naissance et les 40 ans de sa disparition, déjà, Georges Brassens. C'est fou, hein ?
Déjà ? Ah oui, c'était en 81. C'est
toi, tais-toi, t'étais pas né, toi.
Autre signe indiquant toute absence de
temps. Allez, la météo avec Louis Baudin.